ne pas être trop long, sachant que j'ai autant de choses à vous faire entendre via les enceintes que moi parlant. Alors j'espère que j'aurai le temps de vous faire entendre des choses extrêmement élémentaires et simples. Alors ce qui est intéressant, je crois, c'est que par rapport à l'intervention précédente, c'est à la fois vraiment dans une continuité, c'est très bien programmé tout ça. Et en même temps, à partir de, je pense, d'un mode d'entrée qui est très très différent, puisque c'est l'idée consiste à essayer de réfléchir un peu sur cette idée d'ambiance, partant non pas de l'art, mais partant de l'expérience ordinaire qu'on peut avoir de la ville quand on l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça et comment est-ce qu'on va faire ? Alors, un petit préambule simplement, et je vais essayer d'être assez rapide sur cette idée d'ambiance. J'aimerais simplement vous donner quelques petites pistes et d'avoir quatre propositions simplement pour dire de quoi je parle et pour annoncer un petit peu ce que je vais faire par la suite. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur un court fragment vidéo qui dure 2 minutes. Que je vous demande de regarder, non pas d'écouter. Ce sera le seul fragment vidéo que je vous passerai. Donc, ce sera la seule image. Après, je vais couper l'image et je vous ferai écouter des choses. Mais je vais vous passer ce fragment vidéo parce que, de mon point de vue, ça peut être à la fois un fragment qui illustre une ambiance urbaine très ordinaire, très banale, insignifiante, peut-être même le degré zéro d'une ambiance urbaine, mais encore et surtout parce que peut-être qu'il y a une... dans ce fragment-là, une métaphore de la notion d'ambiance. Alors, je vais vous le passer. Si on peut éteindre le... Est-ce que c'est possible d'éteindre la lumière ? Bien, je ne vais pas la commenter, cette image, elle dure 2 minutes à peu près. Bien. Un fragment donc qui dure 2 minutes 25. Qui est... alors pourquoi je vous passe ce fragment ? Je ne sais pas si vous avez vu, enfin, parfois on voit des choses, parfois on ne les voit pas. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi est-ce que je voulais vous passer ce fragment ? Parce que d'après moi, ça peut être une bonne introduction à ce qu'on pourrait entendre par ambiance, enfin, tel qu'en tout cas on la développe au laboratoire auquel j'appartiens, donc le Cresson, à Grenoble. Parce que dans cette image-là, en fait, peut-être que vous avez remarqué des choses ou peut-être pas, et que si je vous la passe différemment, vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez pas remarquées. On parlait tout à l'heure justement du rôle de l'art... dans sa capacité à faire apparaître des choses. Voilà, un extrait tout simplement extrêmement banal, où quand on est sur place et qu'on enregistre ça, ben, on ne voit pas grand-chose, mais si ce n'est que quand on le repasse plusieurs fois à vitesse accélérée ou réduite, eh bien, on voit qu'en fait la luminosité de l'espace change. Et bon, on voit apparaître des choses qui au départ n'étaient pas si manifestes que ça. Je vais couper ça maintenant, je vais passer sur le vert. C'est ça. Alors, donc premier point, je vous ai dit, je vais partir de 4 propositions vraiment de base, élémentaires, pour dire qu'est-ce que c'est que l'ambiance, et puis après je vais passer à mon propos. Je vais rentrer dans le vif du sujet, donc là c'est plutôt un préambule. Qu'est-ce que montre cet exemple-là ? C'est le fait qu'une ambiance va convoquer une façon de sentir, une manière de se sentir et d'éprouver un lieu, sans forcément qu'on soit conscient précisément de la manière dont le lieu nous affecte. D'une certaine manière, on pourrait dire, premier argument, une ambiance pourrait consister en une base continue de l'expérience ordinaire. Elle est toujours présente. Alors, deuxième point maintenant, si on continue à filer la métaphore de ce parvis là, à côté de Grenoble, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ben, il y a au moins 3 choses. Il y a un environnement construit, donc là, un cinéma, un parvis, un système d'éclairage public, etc. Des qualités sensibles, perceptibles. Donc de la lumière, de la couleur, de la luminosité. Et puis, une dynamique temporelle. Ici, en l'occurrence, une dynamique infinitésimale, extrêmement, extrêmement lente, où il se passe quelque chose. Simplement, il faut du temps, il faut de l'attention, peut-être, pour le remarquer. Donc, deuxième point, une ambiance, à minima, ce serait peut-être un espace-temps qu'il serait éprouvé d'un point de vue sensible. Je vais vous faire écouter maintenant un fragment, le même espace, simplement à entendre, non plus à voir, mais à entendre. Donc on parlait tout à l'heure de l'étendue, je crois que là, pourquoi je vous passe ça? Pour vous dire une autre chose, pour vous dire qu'une ambiance, c'est à la fois bien sûr ce qu'on peut voir, mais aussi ce qu'on peut entendre, mais encore le fait que chaque médium sensible charrie avec lui certainement un type de spatialisation, un type de temporalisation qui est sans doute spécifique. En l'occurrence, si on comparait simplement la vidéo de tout à l'heure, et peut-être le sentiment qu'on peut avoir de dilatation de l'espace avec ce que je viens de vous faire écouter, là, qui renvoie plus peut-être à un geste, à la mise en œuvre d'un geste moteur, on en parlait, je crois, hier, et qui serait plus peut-être de l'ordre de l'emportement. Bien, en tout cas, plusieurs médiums sensibles convoqués, et là, on en arrive à un troisième point d'introduction. Qu'est-ce que c'est qu'une ambiance? C'est aussi une configuration plurisensorielle. Ça engage de la lumière, du son, mais aussi de la chaleur, des odeurs, etc. Mais encore, à partir de ces deux exemples que je vous ai passés, on voit d'une part qu'une ambiance va composer avec les sens, va composer avec les différents supports de la sensorialité humaine, et engage de ce point de vue-là un versant esthétique, mais aussi, et c'était le sens un peu du fragment sonore que je vous ai passé, vous voyez bien que là, on a affaire aussi à l'expression, à la manifestation de pratiques, de conduites sociales qui vont être audibles et qui vont prendre part à l'ambiance dans laquelle on se trouve. Donc là, on a affaire aussi à un versant pragmatique qu'il va falloir considérer. Et une des questions va être précisément comment articuler cette dimension esthétique à une dimension pragmatique, comment articuler une composition multisensorielle avec des façons d'être, des façons d'agir, des façons de se conduire dans un espace, en l'occurrence ici public. Dernier point, une ambiance, là je ne vais pas illustrer le propos, je vais simplement vous l'énoncer. L'idée que la notion d'ambiance pour nous est intéressante parce que elle renvoie à fondamentalement une transversalité. Elle est de l'ordre de la transversalité parce qu'elle essaye d'articuler du sensible avec du social et du spatial. Premier type de transversalité. Deuxième type de transversalité, elle est ni purement subjective, ni purement objective. On est entre les deux. Et d'autre part, elle essaye d'articuler un champ de recherche, un champ de réflexion théorique avec des pratiques, des activités de conception architecturale, urbaine, etc. Bien, donc là j'ai terminé avec cette introduction, je vais essayer d'accélérer sinon je ne vais pas m'en sortir, pour vous dire, voilà en deux mots, très rapidement, comment est-ce qu'on va pouvoir se saisir de la notion d'ambiance, sauf que je ne vais pas continuer à essayer de la définir, tâche qui serait assez futile et assez, je crois, pauvre, mais plutôt pour me poser une question qui est comment est-ce que se fait une ambiance? Non pas qu'est-ce que c'est qu'une ambiance, mais comment est-ce que se fait une ambiance? Ça veut dire que là, je vais essayer d'approcher l'ambiance en termes d'effectuation, en termes de processus dynamique, et dire que, puisque je disais tout à l'heure, l'ambiance c'est d'une certaine manière la base continue de notre expérience quotidienne, comment est-ce qu'on va pouvoir rendre compte de cette création continue, en fait, de l'ambiance, sachant qu'elle n'est jamais donnée une fois pour toutes, qu'elle est toujours à reconduire, qu'elle est toujours en cours de production, qui est toujours en train de se faire et de se défaire. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur des exemples sonores plus qu'élémentaires. Vous allez sans doute les trouver peut-être très pauvres ou très insignifiants, mais je pars de là tout de même. Et ces extraits sonores renvoient parfois à certains phénomènes, parfois à des séquences, parfois à des situations, donc des formats un peu différents, mais des formats qui essaient d'illustrer l'idée que j'avance d'un triple processus que je vais essayer en fait de présenter rapidement. Donc, m'appuyer sur des extraits sonores ordinaires, espaces urbains ordinaires, dans des espaces de transport. Parce que là, il y a une connexion possible avec le flux, peut-être. Là, on va se retrouver dans le métro, dans le tram, etc. Alors, pourquoi ? En même temps, je vous ai dit, l'ambiance est multisensorielle, plurisensorielle, donc je passe par du sonore. Alors, pourquoi du sonore ? Ben, déjà parce que je me trouve ici. Hein, locus sonus, c'est quand même du son. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça au début. Donc, je me suis dit, ben, je vais quand même parler du son. Et c'est ça qui nous préoccupe. Mais encore, je crois qu'il y a au moins 4 raisons à s'intéresser au sonore spécifiquement quand on travaille sur l'ambiance. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est une composante fondamentale d'une ambiance. En cela, qu'elle permet de travailler sur la question de l'immersion, de l'enveloppement, de l'accompagnement. On a déjà, je pense, pas mal parlé ces jours-ci. D'autre part, parce que le son, c'est du temps qualifié, et donc avec le son, on va pouvoir parler et avoir accès concrètement à des processus, à des phénomènes en train de se faire, mais aussi parce que le sonore nous permet de travailler sur le jeu entre entendre et agir. C'est-à-dire que dans du son, quand on travaille sur du sonore, on est, là encore, dans une articulation entre la perception et la production sonore. Mais enfin, parce que, et là on a eu des beaux exemples tout au cours hier et aujourd'hui, tout à l'heure on parlait du désaccordage par exemple, parce que peut-être qu'un des langages possibles pour parler de l'ambiance, c'est celui du langage sonore. C'est-à-dire que le son peut être, sans doute, se prêter à... peut être mise au service d'un discours sur l'ambiance, des termes comme résonance, harmonie, s'accorder, se désaccorder, et j'en passe, etc., peut être extrêmement pertinent pour essayer de travailler sur la question de l'ambiance. Donc un vocabulaire qui viendrait du sonore. Alors quelle est la question que je me pose, c'est quoi ? C'est comment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir à l'émergence d'une ambiance, à la production et à la transformation d'une ambiance, sachant qu'une ambiance, et ce que j'ai essayé de vous montrer par ces deux fragments préliminaires, est à la fois le résultat d'un environnement construit. Le premier exemple de la vidéo, c'est quoi ? C'est simplement un éclairage public qui se met en route, bon, et qui modifie pour le coup l'ambiance lumineuse dans laquelle on se trouve. Mais si on s'en tenait là, ce serait insuffisant, parce qu'une ambiance, c'est aussi... le résultat d'activité, de conduite, c'était le sens aussi du fragment sonore, hein, la moto qui démarre, et qui, pour le coup, va reconfigurer l'ambiance dans laquelle on se trouve. Donc, c'est à la fois une production, une résultante d'un environnement construit et d'un certain nombre de pratiques de conduite sociale. On met de l'ambiance, comme on dit. Alors, comment faire en sorte pour tenir ensemble ces deux bouts-là ? Et pour ne pas privilégier l'un par rapport à l'autre, pour d'une certaine manière travailler sur l'interaction qu'il y a entre des conditions physiques, environnementales, et puis des usages, des pratiques, des conduites en espace public. La proposition que je ferais serait de prendre l'ambiance par le milieu. Prendre l'ambiance par le milieu en essayant d'identifier 3 phénomènes. 3 processus qui seraient constitutifs de la dynamique d'une ambiance, de la dynamique de transformation d'une ambiance. Quand je dis 3 processus, il s'agit de dire que dans toute ambiance, ces 3 processus seraient en œuvre. Donc ces 3 processus ne renvoient pas à 3 ambiances, bien sûr, renvoient plutôt à ce qu'on pourrait appeler des régimes d'emprise. Je ne vais pas parler de ça, mais des régimes d'emprise d'une ambiance. Alors, premier processus, je vais vous le faire entendre tout de suite, qu'on pourrait appeler un régime de l'acclimatation. Régime de l'acclimatation, là on a affaire à de l'ambiance accordée. Vous voyez qu'on retrouve les termes du son. Là, on est dans une posture qui s'appuie plutôt sur une écologie du monde vécu. Vous allez voir que quand je vous décline ces trois processus, en fait, ce que j'engage aussi, ces trois référents, je plaide pour un pluralisme théorique et conceptuel, puisqu'il ne s'agit pas de dire « je m'appuie sur une démarche », mais plutôt « chacun de ces processus-là nécessite la mise en œuvre d'un corpus conceptuel et théorique qui vient d'horizons différents ». Ici, dans l'acclimatation, peut-être qu'on pourrait s'intéresser à une écologie du monde vécu avec la notion de Umwelt, la notion d'entour, hein, tel que Bonuscule, qui est un vieux biologiste, a beaucoup, beaucoup travaillé sur la notion de monde humain, de monde animaux, et qui a travaillé sur cette notion de Umwelt. Alors, premier processus, acclimatation, consiste tout simplement en une mise en résonance des ambiances et des conduites. On peut difficilement dissocier dans ce processus-là l'ambiance elle-même du public, puisque là, je vais vous passer à chaque fois des extraits d'espace public, l'ambiance elle-même avec le public ou les individus qui peuplent l'espace en question. L'un et l'autre tendent à se confondre. On a accord, on a accordage, on a acclimatation. Je vais vous passer trois fragments très très brefs. Le premier fragment qui serait simplement une toute petite illustration extrêmement élémentaire de l'harmonisation. Vous allez entendre des musiciens dans le métro et puis vous allez voir comment est-ce qu'il se trouve qu'à un moment donné, leur musique s'accorde, s'harmonise plutôt, avec le signal sonore du métro qui est en train de fermer ses portes. Deuxième fragment extrêmement élémentaire aussi, très très bref, de l'ordre de la synchronisation. Là, les musiciens, les mêmes musiciens, un peu plus tard, toujours dans la même situation, font la musique et vont changer de morceau au moment précisément de l'arrêt du métro et donc vont aussi se saisir d'une occasion pour passer à autre chose. Donc synchronisation entre une production musicale in situ et puis la production du métro lui-même. Troisième fragment, toujours dans le métro, autre contexte, mais là encore un musicien qui arrive avec sa boombox, qui fait jouer sa boombox dans le métro, et vous allez voir en fin de fragment, qui est un fragment un peu plus long, vous allez entendre qu'à certains moments, il est quasiment impossible de distinguer si on a affaire, si on entend les rails du métro en train de circuler ou si c'est la musique. Donc là, il y a une confusion entre les deux. Donc ce sont trois fragments très brefs, je vous passe les deux premiers. Donc le premier sur l'harmonisation, le deuxième sur la synchronisation. C'est évident, c'est des exemples qui sont effectivement extrêmement grossiers, j'en conviens. Enfin... bien deux exemples extrêmement basiques et élémentaires, mais pour vous montrer comment des ajustements se font entre un environnement ou un milieu sonore dans lequel on se trouve et puis des conduites, des pratiques en fait, de production. Je ne vais pas vous passer le troisième parce que je crois que je n'aurai pas le temps, donc je vais passer plus vite. On pourra revenir dessus si vous voulez. Donc là, on a affaire à un premier processus qui serait de l'ordre effectivement de l'acclimatation, l'affinité étroite entre des impressions et des expressions, le fait que les conduites ne font que prolonger l'ambiance dans laquelle on se trouve, hein, en tant qu'auditeur. Et là, on a affaire à une adéquation immédiate, en fait, au milieu. On a peu affaire à des conduites réflexives, conscientes, voulues, volontaires, intentionnelles. On a vraiment affaire à une expérience qui est de l'ordre de la sensation. Alors, je ne vais pas avoir le temps non plus, mais on pourrait pour ça, pour développer ce régime d'emprise, s'appuyer sur un certain nombre d'expressions de langage courant. Et je crois que c'est très très important, quand on travaille sur l'ambiance, de revenir aux outils dont on dispose, en particulier aux outils langagiers, du langage courant. Et là, ce régime-là pourrait mettre en œuvre des expressions du type « se fondre dans le paysage », se faire corps avec le lieu, se laisser porter par la foule, se prendre d'affection, etc. etc. C'est-à-dire tout un ensemble d'expressions du langage courant qui renvoie à une première logique de transformation ou de processus d'ambiance qui serait une logique du lâcher-prise. On est dans une logique du dessaisissement. J'ai vu que vous aviez déjà travaillé les années précédentes sur les notions de symbiose, de syntonie, etc. Je crois qu'on est dans ce type de processus-là. On prend part à l'ambiance ici de façon très discrète, dans un devenir imperceptible, on se fond dans le paysage, dans l'ambiance. On accompagne l'ambiance en train de se faire. Et là, si on revient à l'intervention précédente, on est effectivement dans l'ordre du sentir, ou du rapport de l'articulation entre sentir et se mouvoir. La question du geste va être fondamentale dans ce régime-là, puisque ce devenir ambiant convoque en fait une esthétique du geste. Je ne vais pas développer ça. On a affaire ici à l'ambiance comme composée de petites inclinations. Si on voulait prendre un auteur de la psychopathologie existentielle, Eugène Minkowski, qui nous parle précisément du synchronisme vécu, et à mon sens, il parle de ce phénomène, ce processus-là d'acclimatation, il nous dit qu'on a affaire là à avancer harmonieusement avec le devenir ambiant. Premier processus, premier régime, sauf que ce n'est pas le seul. Premier processus, si on voulait résumer tout ça, c'est quoi? C'est vibrer à l'unisson. Bien. Sauf que ce n'est pas suffisant parce qu'on n'est pas toujours dans ce cas de figure-là et que si c'était ça, on serait en symbiose complète avec le milieu dans lequel on se trouve. Donc il va falloir essayer d'aller un peu plus loin et proposer un deuxième régime, deuxième processus qui va être celui de l'inflexion. Là, l'ambiance n'est plus accordée, elle va être modulée. On aurait affaire ici à une écologie de la perception située. Peut-être qu'une des notions, un des concepts clés serait celui d'offrande, d'affordance, tel que Gibson le propose. Et là, il s'agit de mettre en avant le pouvoir du public à modifier des ambiances à partir et en fonction de leurs pratiques. Alors ces pratiques peuvent être intentionnellement sonores, comme quand on parle, comme quand on siffle, comme quand on fait de la musique, on parlera de pratiques sonores, ou bien de pratiques sonifères, quand les conduites, en fait, ne font que reconduire des sons liés précisément aux actes. Marcher, quand on marche, on fait des bruits en même temps. On ouvre une porte, et bien on la fait grincer, etc. Ce n'est pas une intentionnalité sonore là, n'empêche qu'on produit malgré tout du son. Alors là encore, je vais vous passer deux fragments très très élémentaires et très simples, là encore dans des espaces de transport. Premier fragment, marquer l'espace, pratique de marquage de l'espace, marquage sonore de l'espace. Vous allez entendre là, on se trouve dans le métro à Tunis, un petit garçon qui passe dans le métro et qui vend des chewing-gums. Et donc il va énoncer chewing-gum, vous allez l'entendre au début, puis on le perd de vue, mais il se déplace, et il revient, il réénonce chewing-gum. Donc il y a un marquage territorial de cet espace-là par cette activité. Deuxième fragment aussi très très élémentaire, on est dans le métro à Bonn, tout autre contexte sonore, tout autre paysage sonore, espace extrêmement simplifié, extrêmement silencieux. Et là, en début de matinée, qu'est-ce qu'on entend ? On entend deux, trois personnes, et une en particulière qui arrive, qui prend place et qui va ouvrir son journal. On va entendre en fait les journaux, les feuilles de journal qui se déploient, on va entendre les clés, etc. Et là, simplement pour vous dire quoi ? Pour vous dire comment est-ce que des pratiques aussi élémentaires que celles-ci peuvent être des révélateurs de ce que permet l'espace. Si on l'entend, c'est précisément parce que l'espace en question est extrêmement silencieux. Donc je vous passe simplement ces deux extraits. Deuxième extrait, je pense pas que j'aurai le temps de vous le passer en entier, mais je vous demande simplement d'écouter le début. J'arrête là. Bien, là, c'est simplement pour dire quoi ? Pour dire aussi que des pratiques peuvent être extrêmement, extrêmement fines dans leur production sonore. Elles peuvent aussi affecter l'ambiance dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que ce n'est pas un maximum de son qui va être producteur nécessairement d'ambiance. Mais au contraire, des gestes sonores extrêmement simples, extrêmement fins du point de vue de leur émergence sonore, peuvent être aussi des éléments de qualification, de requalification extrêmement importants. Donc là, on est dans une autre logique. L'ambiance modulée, elle n'est plus accordée, elle est modulée. Vous voyez que des pratiques vont modifier des tonalités, vont marquer des territoires. Là, on pourrait reprendre la formule de Walter Benjamin, habiter, c'est laisser des traces, effectivement, là, on a bien affaire à ça. Et sur les expressions qu'on pourrait utiliser, du langage courant, il s'agit plutôt de mettre l'espace à l'épreuve, de s'accommoder de peu, de faire acte de présence, de marquer de son empreinte un espace, etc. etc. Donc là encore, des expressions du langage courant vont être à même là, de nous faire réfléchir à ce que c'est qu'une inflexion qui ne relève plus d'un lâcher-prise, mais ici d'un donner-prise. On va, dans ce cas-là, être dans une logique de l'occasion ou de la circonstance. On prend part à l'ambiance en la modulant. On la transforme par des micro-événements. Et là, on n'est plus dans l'ordre du sentir, vraiment, dans l'ordre de la sensation immédiate, mais plutôt dans celui de la perception. Le couple, c'est plus sentir se mouvoir, c'est plutôt percevoir et agir. Ce devenir ambiant dont je parle, c'est plus non plus une esthétique du geste qui va être convoquée, c'est une pragmatique du lieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un espace et comment les pratiques qu'on fait affectent, modulent les processus en œuvre dans l'émergence d'une ambiance. Sauf que c'est pas tout. Je vais aller très vite pour terminer. Troisième processus qu'on pourrait qualifier de conversion. Là, on n'est plus dans une ambiance accordée ou modulée, mais dans une ambiance qui va être altérée. On a peut-être plus à faire du point de vue conceptuel et théorique à une écologie des relations publiques, avec la notion de cadre, de frame, chez Goffman, entre autres. Là, l'idée, c'est qu'on a aussi la possibilité de transformer la nature même d'une ambiance. On a la possibilité d'intervenir et d'affecter la façon dont on passe d'une ambiance à une autre. L'ambiance va se présenter ici plutôt comme une production collective, avec éventuellement négociation, concertation, recadrage, etc. Je vais vous passer juste un seul fragment. J'en avais prévu deux, mais je vais vous en passer un seul. Banal, hein, qui est là encore dans le tram de Bonn, des jeunes qui écoutent leur radio dans le tram, et une dame arrive et se sent gênée par cette radio, elle leur demande de la couper. Et donc vous voyez que là, on a quoi ? Situation plus qu'élémentaire, hein, plus que banale. On n'intervient plus seulement sur l'ambiance, mais on intervient sur les conditions de possibilité de l'ambiance. Bien, on modifie les conditions même de réception, en fait, du milieu dans lequel on se trouve. On n'est pas là acteur à part entière, on n'est pas seulement acteur à part entière de l'environnement dans lequel on se trouve, on est aussi acteur, et on a une maîtrise sur les conditions même de production, de réception des sons dans lequel on se trouve. Donc, troisième processus qu'on pourrait appeler l'ambiance altérée, parce que là, il y a une modification de la nature même et des conditions même de production d'une ambiance. Des expressions courantes du type donner la mesure au site, faire preuve de discernement, prendre place en public. Là, l'idée, c'est que on a peut-être des phénomènes qui sont beaucoup plus de l'ordre d'une activité réflexive. On peut en avoir conscience, on peut volontairement, intentionnellement demander à une personne d'arrêter la musique, ou bien j'avais un autre fragment où on entend dans un même espace, à la fois un enfant qui parle dans le métro, mais aussi une voiture qui passe à l'extérieur avec les sirènes, mais encore un usager du métro qui écoute son Walkman, et où là, on a trois espaces sonores qui se pénètre, qui s'interpénètre, et où on, là, pour le coup, on doit faire preuve de discernement en tant que personne usagée du métro pour savoir discriminer précisément ce à quoi on a affaire. Donc là, on est plutôt dans un processus qui est de l'ordre de l'avoir prise. On est dans une logique plutôt du contrôle et de la maîtrise de l'espace dans lequel on se trouve. On prend part à l'ambiance en agissant sur ces conditions de possibilité. On normalise ou on formate l'ambiance en spécifiant ce qui est acceptable ou inacceptable, intelligible ou pas. Et le couple, peut-être, de base, c'est plus percevoir et agir, mais encore sociabilité, sensibilité. Donc là, on a la mise en œuvre aussi de règles de conduite, de codes dans la production et l'émergence d'une ambiance. Peut-être que ici le support serait plutôt un support qui relève d'une sociologie des sens. Alors, j'arrête là, je crois que j'ai plus que déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Pour conclure et pour dire quoi ? Pour dire que dans ces trois processus, il ne s'agit pas de les dissocier, en fait. Vous voyez bien que, je ne sais pas si j'ai 2 minutes ou pas, oui. Pour vous passer un dernier fragment en guise de conclusion, pour peut-être dire que ces trois régimes d'emprise, donc ambiance accordée, modulée, altérée, sont toujours bien sûr en œuvre simultanément dans une même ambiance, sauf que, là c'est, je conclurai là-dessus, c'est très important à mon sens, sauf que certaines ambiances se prêtent plus que d'autres à des actions, à des processus de transformation par des conduites. C'est-à-dire que peut-être que certains lieux sont plus facilement souples, malléables, transformables que d'autres, et qu'une des questions, c'est précisément de voir en quoi est-ce que des conduites sociales, des pratiques, des usages, des perceptions d'un public est à même ou pas, et dans une certaine mesure, de prendre part au milieu dans lequel il se trouve. Alors je vais vous terminer simplement sur un fragment sonore qui dure 2 minutes à peu près. Une rue de Sao Paulo au moment de la Coupe du Monde de football. C'est pas le match, hein, c'est un moment entre deux matchs. Et là, pourquoi je vous passe ça ? Parce que donc espace festif, recadrage complet de l'environnement sonore de cet espace-là. On met de l'animation, espace festif. Mais encore, chacun y va de sa production, c'est à qui va être le plus audible, le plus présent sur la scène. Phénomène d'entraînement, hein, confusion en même temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas plus trop où on est dans un régime à la fois qui, à mon sens, trouve un équilibre entre une ambiance accordée, on est vraiment dans l'ambiance et chacun y est et y prend part, mais en même temps il fait acte de présence par sa voix, par sa radio, par son klaxon, etc., et en même temps, collectivement, on recadre tout ça puisqu'on transforme un espace ordinaire en un espace festif. Bien, je termine là. On parlait tout à l'heure de s'il y aurait des propriétés particulières du monde sonore par rapport à d'autres sensorialités. Peut-être qu'on en a entendu une ici qui serait celui de la métabole, hein. Celui de passer constamment d'un rapport figure-fond sans qu'il y ait une stabilité en fait, des deux. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie.